France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 25e chapitre, la fin des années 1950. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En 1956, dans ce nouveau Brésil qui tente une renaissance sous la présidence de Juscelino Kubitschek, tout évolue rapidement. Le pays est en pleine croissance et a rarement été aussi ouvert sur le monde. Les États-Unis soutiennent de plus en plus les musiciens brésiliens, à commencer par le compositeur Villa-Lobos qui y réside chaque début d'année. Et si la musique nord-américaine a toujours autant de succès au Brésil, à New York, la musique brésilienne tend à supplanter de plus en plus la musique mexicaine et cubaine. Quant aux artistes américains, ils sont de plus en plus nombreux à visiter le Brésil. Dans les années 1950, la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald, en voyage en Amérique du Sud, fait une escale à Rio, dont elle tombe aussitôt sous le charme. Un soir, dans une boîte à la mode, elle entend une jeune chanteuse interpréter la fameuse mélodie « My Funny Valentine », extrait d'une comédie musicale de 1937. Elle s'appelle Dolores Duran, et son interprétation la touche profondément. C'est l'une des plus belles que je connaisse, lui dit-elle.
Behold the way our fine feathered friend his virtue doth parade. Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast made. Thy tousled hair conceal thy good intent, but thou noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey gent, you're my funny Valentine. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Oh, don't change your hair for me, not if you care for me. Stay funny Valentine.
Étrange destin que celui de Dolores Duran. En 1957, elle avait 27 ans. Elle avait déjà enregistré 2 disques et elle était devenue la déesse culte de la bohème de la zone sud de Rio de Janeiro entre Copacabana et Ipanema. Et sa voix n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Tom Jobim la remarque lui aussi et elle a tout pour lui plaire. Elle a appris toute seule à parler plusieurs langues. Elle est belle, elle a juste 3 ans de moins que lui. Elle aime autant le jazz que le boléro et la samba. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle a choisi un pseudonyme hispanique. Tom la contacte et lui propose de mettre des paroles sur une mélodie qu'il vient d'écrire. Et cela deviendra la célèbre chanson Por causa di você. C'est à cause de toi. À partir de ce moment, les mélodies de Dolores Duran rencontrent un large public. Un de ses grands succès en 1957, c'est la samba canção A Noite de Meu Bem, la nuit de mon bien-aimé. Hélas, elle passera comme une étoile filante dans le ciel musical brésilien. Le 23 octobre 1959, en sortant de son spectacle au Little Club de Rio de Janeiro, elle passe la nuit à fêter son succès et rentre chez elle à l'aube. À peine arrivée, elle s'écroule et meurt d'une crise cardiaque. Elle avait 29 ans. Tom Jobim ne l'oubliera jamais, notamment quand il se joindra au groupe de la bossa nova naissante. Son plus grand succès a donc été cette Noite de Meu Bem. J'aimerais avoir la rose la plus belle, la première étoile qui brille dans le ciel, une paix d'enfant qui s'endort et la joie du bateau quand il revient au port lors de la première nuit que j'aurai avec mon bien-aimé.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Para enfeitar a noite do meu bem. Ah, eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Eu já nem sei se terei no olhar toda a pureza que quero.
Dans les années 1950, le compositeur Heitor Villa-Lobos s'est établi un agenda qui ne change guère. Il passe le début de l'année à New York, puis au printemps, il rejoint Paris, où on le retrouve en général au mois de mai. Puis il rentre ensuite au Bercail, à Rio de Janeiro. En 1955, il termine son 5e concerto pour piano, qui est créé le 8 mai au Royal Festival Hall de Londres, par la dédicataire Felicia Blumenthal, sous la direction de Jean Martinon. Le 25, c'est Villa-Lobos lui-même qui le dirige à Vienne, avec elle, puis à Paris le 8 juin. C'est un des concertos de Villa-Lobos le plus aimé des pianistes. L'adagio est interprété ici par la pianiste brésilienne Cristina Ortiz, qui l'a enregistré avec le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dirigé par Miguel Gomez Martinez. Le premier trimestre 1957, conformément à son agenda habituel, Villa-Lobos est encore à New York. Le 5 mars, alors qu'il fête ses 70 ans, il met un point final à sa dernière symphonie, la numéro 12, qu'il dédie à sa chère épouse Min Jinya. Elle est créée à Washington le 20 avril 1958 par the National Symphony Orchestra, dirigé par Howard Mitchell. Et la première européenne a lieu à Bruxelles par le Grand Orchestre Symphonique de la Radiodiffusion Belge, dirigé par Villa-Lobos lui-même. Une œuvre d'une puissance rare, écrite par un homme qui se bat avec une énergie incroyable contre le cancer qui progresse implacablement. Thank you. le quatrième mouvement de la symphonie numéro 12 de Heitor Villa-Lobos, Isaac Karabchevski à la tête de l'Orchestre symphonique de São Paulo. En 1957, au printemps, Villa-Lobos est de retour à Paris. Et entre-temps, c'est le Théâtre National Populaire dont Jean Villard a pris la direction qui est en tournée en Amérique du Sud. Il fait escale à Rio et à São Paulo en septembre 1957. Et cette fois, le directeur musical qui accompagne la troupe, c'est Maurice Jarre. À l'affiche, Don Juan de Molière, Le Triomphe de l'amour de Marivaux, Le Faiseur de Balzac et Marie Tudor de Victor Hugo. De son côté, la pianiste brésilienne Magda Taliaferro, qui a passé le temps de la guerre dans son pays natal, revient régulièrement à Paris dans les années 1950, où elle est élevée au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 1953. Quatre années plus tard, elle s'est vraiment établie en France et la capitale s'enorgueillit d'avoir un nouveau concours international d'envergure, le premier concours de piano Magda Taliaferro. Un an plus tard, elle fonde plusieurs académies qui portent son nom à Paris, à Rio de Janeiro et à São Paulo. Dans son pays, Magda Taliaferro est entourée d'une affection rare de la part de ses élèves, mais aussi d'un vaste public qui lui est très fidèle.
J'ai joué dans le grand stade qui s'appelle le Maracanãzinho. C'est le petit stade des deux grands. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire. Si vous aviez vu ce peuple se ruant sur l'estrade, il a fallu la police militaire pour empêcher qu'on me mette sur les épaules comme Pelé, qu'on me porte sur les épaules. C'était inimaginable. Ah, c'est extraordinaire. Mais vous savez, il y avait de tout, n'est-ce pas? Des enfants pieds nus, il y avait de tout dans cette foule. Et j'ai eu la même expérience avec 30 000 personnes alors, dans le sud du Brésil, à Porto Alegre, dont 25 000 debout, 5 000 assises, écoutant religieusement un récital de piano que j'aurais pu jouer n'importe où.
Thank you.
l'aria de la sonate pour piano numéro 1 en fa dièse mineur opus 11 de Robert Schumann par Magda Taliaferro. Et voilà que depuis 1955, un chanteur qui arrive du Pacifique fait chavirer les cœurs au Brésil avec ses boléros. C'est le crooner chilien Lucho Gatica. Sa voix de velours et son physique de Latin lover adolescent venu des Andes ont conquis toute l'Amérique latine. Au Brésil, il est même accueilli par la presse comme une vraie star. En 1957, il vit au Mexique où il interprète notamment les succès cubains et chiliens. Au Brésil, il chante même en portugais. Et son chant très intime va entrer au panthéon sentimental où se trouvent déjà Frank Sinatra et les amis de Tom Jobim, Lucio Aves et Dick Farney. Et João Gilberto, dont la voix de crooner fait toujours merveille, n'y est sûrement pas resté insensible, car il vient de vanter la technique de souffle de Dick Farney en chantant un succès de Cole Porter pour le guitariste Roberto Menescal, qui va le faire entrer dans la cour des grands. Au Chili, évidemment, on souligne encore aujourd'hui cette complicité de Lucho Gatica avec les futurs créateurs de la bossa nova. On l'écoute ici en espagnol et en portugais dans « Nadie me quiere, ninguém me ama »« Personne ne m'aime ».
Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sei ninguém. E quem me abraça não me quer bem. Vim pela noite tão longa de fracasso em fracasso. E hoje descrente de tudo me resto cansaço. Cansaço de tudo, cansaço de mim. Feliz chegando, eu chegando ao fim. Nadie me ama, nadie me quiere.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéré pour les médias francophones publics.
Au Brésil, le président Kubitschek a nommé Clovis Salgado, qui lui avait succédé comme gouverneur du Minas Gerais, au poste de ministre de l'Éducation et de la Culture. C'est lui qui confie la direction de la musique au compositeur Camargo Guarnieri. De 1955 à 1960, ce dernier va tenter de réformer l'enseignement de la musique. Il propose par exemple d'intégrer les humanités dans le cursus des étudiants des conservatoires brésiliens, un peu sur le modèle anglo-saxon. Mais il faudra attendre les années 1960 pour que les réformes des conservatoires se réalisent. Malgré tout, Guarnieri va donner un nouvel élan à la vie musicale. On peut d'ailleurs compter cette année-là sur deux excellents quatuors à cordes brésiliens. Et c'est pour celui de São Paulo que Francisco Mignone, natif de cette ville, a écrit son premier opus, une manière de fêter lui-même ses 60 ans. Thank you. Le deuxième mouvement du premier quatuor à cordes de Francisco Mignone par le Quartetto Latinoamericano. En 1957, c'est un pianiste brésilien remarquable et trop méconnu, Arnaldo Estrella, qui crée le 24 août au Théâtre Municipal de Rio le troisième concerto pour piano et orchestre de Villa-Lobos. Il a lié une amitié très forte avec le compositeur et on lui doit d'ailleurs une étude critique de ses quatuors à cordes. Dans les années 1950, il séjourne encore souvent à Paris. Il s'est marié avec la violoniste d'origine italienne Mariuccia Iacovino, avec qui il forme un duo. Mariuccia avait deux filles d'un précédent mariage, dont la pianiste Myriam Dauwelsberg, qui est à la tête aujourd'hui d'une agence artistique très renommée. On l'écoute.
Arnaldo Estrella, il était fils de gens très modestes. Sa mère était modiste et son père était de Portugal, faisait la comptabilité. Et on ne sait pas pourquoi il a décidé de travailler son piano. Et après, il est venu à Paris, il a gagné beaucoup de concours. Un concours s'était organisé par le Columbia Concert, cette grande agence américaine. Et le vainqueur, la Columbia Concert, prenait pour deux grandes tournées aux États-Unis. Il a eu le premier prix. Et il a joué sous la direction de Bruno Walter, de Ormandy, avec des gens très importants comme chef d'orchestre et tout ça. On s'attendait à ce qu'il fasse une carrière très brillante aux États-Unis, mais là-dessus, ça a commencé le mouvement de gauche et tous les intellectuels du Brésil, Jorge Amado, qui était aussi un ami, Portinari, le peintre, Guerra Peixe, Santoro, tout ça, ils ont fondé le Parti communiste. Et il s'est inscrit au Parti communiste. Et à partir de ce moment, plus jamais il a pu retourner aux États-Unis. Arnaldo Estrella avait une culture énorme et aussi il écrivait très bien le portugais. C'était quelqu'un qui n'était pas seulement un pianiste. Il pensait à moderniser, à profiter de l'expérience qu'il a eue en Union soviétique dont l'enseignement de musique était fantastique pour passer ça au Brésil. Il adorait la France. Et quand on était petit, on était en pension, les samedis et les dimanches, on venait à Paris, on était obligé d'aller ou à la Comédie Française, dans les musées et tout ça. C'était un homme qui avait beaucoup de culture. Il n'était pas sentimental. Il était sensible, mais pas sentimental. Il avait une technique très, très solide. C'était une référence.
Thank you.
Arnaldo Stella interprétait successivement une moda de Lorenzo Fernandez et une valse ad esquina, une valse au coin de la rue, numéro 12, de Francisco Mignone. En 1957, Villa-Lobos a quitté New York un peu plus tôt pour Paris, car le 4 avril, il doit diriger la création mondiale de sa 10e symphonie au Théâtre des Champs-Élysées. Malgré les répétitions importantes, il commence dans la capitale française la composition de son 16e quatuor, qui est l'un des plus beaux. Il sera créé à Rio de Janeiro le 13 septembre 1958. Un quatuor qu'Arnaldo Estrella a beaucoup aimé et dont le premier mouvement lui semble être le plus beau que Villa-Lobos ait écrit pour cette formation. À Paris, comme toujours, Villa-Lobos se sent vraiment à la maison. Et il rend souvent visite à Arnaldo Estrella et à sa famille qui y réside alors. Myriam Dauelsberg, interviewée ici à Paris.
Il adorait Paris. Ils arrivaient toujours au mois de mai. Et mes parents ont habité Paris pendant 5 ans. Dès qu'il arrivait, ça y est, c'était la période Villa-Lobos. On ne sortait pas de l'hôtel Bedford, où il logeait toujours. Et dès qu'il arrivait, ma mère nous prenait, on était enfants, et on venait ici. En arrivant ici, à l'hôtel Bedford, il composait au milieu d'un bruit, parce qu'il aimait composer au milieu des gens et au milieu du bruit, au milieu des bavardages féminins, au milieu des futilités. Et lui, il composait.
Thank you.
Le premier mouvement du 16e Quatuor de Villa-Lobos par le Quatuor à cordes brésilien. C'est le 4 avril 1957 qu'a lieu la création de la 10e symphonie de Villa-Lobos à la tête du chœur et de l'orchestre de la radiodiffusion française. Le public du Théâtre des Champs-Élysées a été particulièrement chaleureux. Les chanteurs solistes étaient Jean Giraudeau et Camille Moran. Dans l'œuvre, les chœurs surtout sont très beaux. Villa-Lobos a toujours été très heureux à Paris, même s'il ne faisait guère de progrès dans notre langue. Miranda Holzberg.
Il faisait des conférences à la Sorbonne pour mon désespoir et de celle de ma sœur. Ici, on travaillait à l'école et mes parents tenaient à ce qu'on apprenne le français le mieux possible. Et Villa-Lobos parlait un français épouvantable. Alors une fois, nous sommes allés à une conférence à la Sorbonne. Et je me rappelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit au milieu de la conférence. Il a dit, mais le folklore brésilien, c'est moi, en tapant comme ça sur sa poitrine. Et moi et ma sœur, on mourait de honte. Il parlait très mal le français. Il avait des convictions et les affirmait avec beaucoup d'autorité. Et ici, il dirigeait beaucoup au Châtelet. Il a fait des choses à la radio. En France, il était beaucoup plus aimé qu'au Brésil. C'était les États-Unis et la France. Le Brésil a mis beaucoup de temps à le reconnaître et ça, ça l'a meurtri vraiment.
Thank you.
Un chœur du dernier mouvement de la 10e symphonie de Villa-Lobos, Gloire aux cieux et paix sur la terre. La Société Chorale et l'Orchestre Symphonique de Santa Barbara aux États-Unis étaient placés sous la direction de Gisèle Bendor. À Paris cette année-là, Villa-Lobos reçoit le Grand Prix du disque pour l'enregistrement de la découverte du Brésil. En 1958, il est de nouveau aux États-Unis. Le 19 avril, son 15e quatuor est créé par le Juilliard Quartet à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Cette année-là, l'autre grande artiste brésilienne qui est célébrée par toute la presse américaine, c'est la pianiste Guiomar Novais. Après le décès de son mari en 1950 à New York, elle avait failli arrêter sa carrière, elle avait même annulé ses concerts. Mais les 28 et 29 novembre 1957, elle est de nouveau au Carnegie Hall, où elle joue le concerto de Schumann sous la direction d'André Cluytens. Puis elle est la première soliste invitée par Leonard Bernstein lors du deuxième concert qu'il dirige comme directeur musical du New York Philharmonic les 9 et 12 octobre 1958 avec le concerto de Chopin numéro 2, un orchestre qu'elle connaissait bien depuis les années 1920, où elle avait été la soliste des débuts new-yorkais de Wilhelm Furtwängler. C'est la seule fois qu'elle a joué sous la direction de Leonard Bernstein. On l'écoute ici, dans le premier concerto de Chopin, Yonel Perlea dirige l'orchestre de Bamberg.
Thank you.
merveilleuse Guiomar Novaes. Lors de son séjour aux États-Unis en 1958, Villa-Lobos est nommé docteur honoris causa de l'Université de New York et il compose pour elle sa dernière œuvre, Bendita Sabedoria, sur de courts textes en latin qui célèbrent les vertus de la sagesse. Elle est créée le 2 décembre 1958 au Vanderbilt Hall de l'Université de New York par le Washington Square College Choir, dirigé par Maurice Pérez, qui allait devenir l'assistant de Leonard Bernstein au New York Philharmonic. C'est ici The Corydon Singers qui l'interprète, et on reste impressionné de voir l'activité de Villa-Lobos alors que son cancer le faisait souffrir de plus en plus et l'épuisait. Myriam Dowelsberg en a été témoin.
C'était ces 10 années, entre 49 et 59, qu'il a peut-être le plus produit. Mais chaque fois qu'il semblait un peu fatigué, sa femme disait, l'appelait Benzinho, mon chéri, mon petit ou mon petit lapin, quelque chose comme ça. Benzinho, Benzinho, ne fais pas ce regard de bœuf mort. Alors, il se redressait immédiatement. Elle essayait de le tenir toujours, parce que j'ai jamais vu un amour pareil comme celui de Benzinho pour lui.
Le dernier chœur composé par Villa-Lobos. En 1956, dans la musique populaire, une chanteuse de 21 ans, belle et séduisante, devient ce qu'on appellera dans les années qui suivent une idole des jeunes. Elle s'appelle Silvia Telles et vient d'avoir une relation amoureuse avec le guitariste et chanteur João Gilberto, qui va l'entraîner bientôt sur les chemins de la bossa nova. C'est vraiment l'autre pionnier du genre, Antonio Carlos Jobim, qui la propulse sur le devant de la scène par une chanson qu'il écrit pour elle avec son fidèle parolier Newton Mendonça, Foi a noite. C'est la nuit et la mer qui m'ont fait penser que tu m'aimais encore. La chanson a eu un réel impact, raconte le producteur du disque. L'arrangement, avec ses recherches harmoniques, mettait en valeur la mélodie d'une façon très nouvelle. Oui, c'était un peu la bossa nova avant l'heure.
Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi a lua que me fez pensar que você me queria outra vez e que ainda gostava de mim. Ilusão, eu bebi talvez, foi amor. Por você bem sei, a saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você. Ilusão, eu vivi talvez, foi amor. Por você bem sei, a saudade aumenta com a distância e a ilusão é feita de esperança. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi você.
La voix de Sylvia Telles pour se quitter aujourd'hui et se retrouver bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Stéphane Desmonts, attaché de production Nelly Portal. Une émission qu'on peut bien sûr écouter ou réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.